le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler poursuite d'études. On va parler notamment de grandes écoles ce midi dans ce magazine. Autour de la table, eh bien, plusieurs étudiants, mais aussi Françoise Ramsim, qui est donc la fondatrice de Pré-Prépa NC. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, je le disais, plusieurs étudiants autour de la table qui vont nous parler de leur parcours, de leur expérience aussi avec vous, notamment avec Pré-Prépa NC, et puis de la poursuite de leurs études. Je propose qu'on commence par peut-être un petit tour de table. Vous pouvez vous présenter et puis parler un petit peu de ce que vous avez fait, de ce que vous allez faire.
Bonjour, je m'appelle Laura Farartig, merci pour votre invitation. Je suis actuellement étudiant en M1 d'histoire médiévale à Sorbonne Université à Paris. Je suis passé par la prépa littéraire Lettres Sciences Humaines du lycée La Pérouse en 2022 et 2023. J'ai poursuivi, après avoir fait mes concours à Paris, par une double licence directement en troisième année en histoire et en anglais à Sorbonne Université. Cette année, je viens d'obtenir mon M1 d'histoire médiévale. L'an prochain, je continue ce diplôme et j'entre aussi en M1 de relations internationales à IRIS-SUP à Paris.
Alors pourquoi des parcours aussi différents? Pourquoi avoir ce double diplôme et pourquoi continuer avec un M2 et un M1?
Alors déjà, je pense que l'avantage de pouvoir faire des études aussi intenses que celles auxquelles on nous prépare en prépa, c'est qu'on a la liberté de pouvoir choisir et de pouvoir bifurquer comme on veut. On peut avoir un parcours aussi éclectique qu'on le souhaite. Et dans mon cas, j'ai trouvé que commencer par un parcours de recherche, comme je le fais actuellement en master de recherche historique, ça permet d'avoir une activité intellectuelle qui est très poussée et qui est très théorique. Mais en même temps, je veux continuer à avoir une sorte de sensation de terrain. Et c'est pour ça que je me oriente aussi vers quelque chose de plus concret, de plus ancré dans le temps, comme les relations internationales.
Et au niveau de la carrière, c'est quoi le rêve, c'est quoi le but?
Pour l'instant, je garde beaucoup, je tiens à garder mes options ouvertes. Je sais que c'est notamment une des compétences qui est potentiellement transférable à la Calédonie prochainement suite aux discussions depuis 2024. Et je laisse complètement mes options ouvertes pour rentrer, notamment parce que j'ai mes intérêts moraux ici. Je suis calédonien de naissance. Et je n'exclus pas du tout de mettre au profit les compétences que j'aurais acquises dans mes études pour la Calédonie.
Qui veut parler de son parcours ensuite? On va continuer le tour de table dans l'ordre.
Bonjour Antoine Ramsim. Moi j'ai fait 5 ans d'école de commerce post-bac à Bordeaux, à l'ESCA, avec un master en spécialisation innovation et transformation digitale. Ensuite j'ai travaillé un an en métropole suite à mes études. Comme j'étais en alternance, on m'a proposé de me recruter. Et puis après je suis revenu depuis septembre dernier en Calédonie pour l'instant travailler ici et continuer sur la suite de mes études. Moi, j'ai un peu moins de parcours. J'ai fait un parcours assez direct. Je savais directement ce que je voulais faire. Mais je voulais absolument partir en France faire mes études.
Et absolument revenir aussi?
Oui, ça c'est non négociable pour moi. Ma vie, elle est ici. Je suis né ici et toute ma vie sera ici, je pense. Je ne m'exclus pas de repartir un petit peu, découvrir d'autres possibilités à l'international. J'ai eu l'occasion déjà de faire de l'international, donc je trouvais que c'était une très belle expérience, mais dans le cadre étudiant et pas dans le cadre professionnel. Et je pense que ça peut être totalement différent, afin d'apprendre d'autres méthodes de travail, d'autres possibilités, et pouvoir les ramener ici, parce que l'objectif de mes études, c'était et pour moi, et aussi apporter forcément de nouvelles compétences en Calédonie, là notamment sur les nouvelles technologies, l'amélioration des processus en entreprise, intelligence artificielle, etc. Ce que je fais aujourd'hui.
Il y a des opportunités en plus sur le territoire.
Oui, de plus en plus. Alors, il faut aller les chercher. Peut-être les entreprises ne se rendent pas forcément compte du besoin qu'elles ont. On ne va pas forcément trouver d'annonce directement sur LinkedIn ou sur Internet de ces postes-là, mais il y a du besoin en nouvelles technologies, avec tout ce qui est, ça avance constamment au jour le jour, donc il y en aura de plus en plus de besoins dans ces métiers-là, que ça soit du métier technique ou un peu moins technique comme le mien, il y en aura de plus en plus au fil des années, ça c'est sûr.
On a des parcours très variés autour de la table, je crois qu'il y a des cursus scientifiques aussi sur ma droite. Qui veut prendre la parole?
Bonjour, moi c'est Léonore Mailleux et j'ai fait mes études de médecine vétérinaire en Espagne. Et j'ai été récemment diplômée et je poursuis mon cursus à l'école vétérinaire de Toulouse pour faire une spécialisation en équine.
Ok, donc ça c'est la voie royale?
La voie royale, ce serait de partir en France et de faire tout son cursus en France. Mais j'ai décidé d'aller en Espagne pour rentrer directement. Parce qu'en France, on a 2 ans de prépa à faire. Et en Espagne, j'en ai fait 1 an.
Donc c'est un gain de temps quand même.
Oui, voilà. Pour être diplômée à 24 ans et pouvoir ainsi travailler directement.
Avec là aussi l'envie de travailler en Nouvelle-Calédonie?
Oui, je compte rentrer l'année prochaine après mon année d'internat pour voir un petit peu la dynamique du pays, comment ça se passe et réfléchir à m'installer ou pas.
Ok. Qui prend la parole pour la suite? Allez, on continue dans l'ordre.
Alors, enchantée, je m'appelle Tévi Sabot. Je ne suis pas affiliée à votre collègue Lionel Sabot. Mais du coup, je suis masseuse kinésithérapeute diplômée depuis 2 ans. Et je travaille actuellement, du coup, en libéral. J'ai fait un bac S option anglo-européen qui a été co-enseigné par Madame Ronsim ici présente. Et ça m'a permis de rentrer à l'époque en PACES. Donc, c'était un concours. À l'époque, ça s'appelait la première année commune de santé, si je ne me trompe pas. C'était très compliqué. Et par la suite, j'ai pu obtenir ma sœur kinésithérapeute et je suis partie en France pour réaliser ses études. Donc, c'était effectivement un parcours assez compliqué.
Mmh. Enfin, bonjour, je m'appelle Éloi Beaufaron et je viens de finir ma première année à Sciences Po Lyon.
Ça s'est passé comment ?
Ah, c'était assez intense. On ne se rend pas compte de la charge de travail, de l'évolution du lycée aux études supérieures. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé les nouvelles matières que j'ai découvertes et ce parcours.
Et le fait d'être passé par une prépa locale, ça aide, je suppose, à se mettre dans le rythme.
Oui, parce qu'avec Madame Ramsim m'a formé, donc elle m'a vraiment permis de me rendre compte de la réalité, enfin de la difficulté des cours, notamment d'histoire ou même de culture générale, que vraiment ce qu'on nous demande à Sciences Po Lyon, c'est de suivre les informations, d'avoir une grande connaissance. Et vraiment, je trouve que cette prépa m'a vraiment permis de mettre un premier pied dans mes études.
Ces parcours, quand vous les regardez maintenant un petit peu dans le rétroviseur, que vous les voyez s'insérer dans la vie professionnelle ou continuer leurs études, quel est votre regard, vous qui les avez connus au début de l'aventure ?
Alors moi, je suis très contente. Alors, il faut savoir que je suis pas du tout sponsorisée, on ne paye pas pour pré-prépa, etc. Je n'ai pas eu tous les élèves autour de la table, mais à un moment, je les ai côtoyés. Et je trouve que c'est une fierté de les avoir informés. Et pour moi, ça, c'est important, l'information, de les avoir informés de la diversité des cursus, que ça soit localement ou en métropole ou ailleurs, et de révéler que, en fait, c'est pas parce qu'un élève est parti ailleurs dès son bac qu'il ne va pas revenir, etc. Finalement, ils reviennent. Ils ont une ouverture d'esprit et la réussite est à portée de stylo, d'ordinateur et de travail personnel.
Il y a toujours un peu cette idée que quand on part faire ses études à l'extérieur, on ne revient pas forcément ou au moins pas tout de suite. Et notamment dans le contexte de crise qu'on connaît ici en Nouvelle-Calédonie depuis quelques années. Ce n'est pas forcément vrai.
Non. Non, ce n'est pas forcément vrai. Et moi, j'ai toujours fait de l'orientation aux jeunes en disant « il faut à un moment partir ». Vous pouvez partir tout de suite ou attendre un peu. Vous avez des formations ici qui sont très bien, vous avez envie de rester, vous restez. Mais on peut vous dire aussi qu'il y a des formations ailleurs. Et là, je vais peut-être dire quelque chose, c'est que la semaine dernière, on a fait une réunion pour les Sciences Po. On a des établissements scolaires qui n'ont pas voulu diffuser l'information parce que ça pouvait faire concurrence à aux formations locales. Ben non. Il faut. Moi, je suis calédonienne. J'aime bien informer aussi nos jeunes qu'il y a cette formation en Nouvelle-Calédonie, mais qu'il y a aussi des formations ailleurs. On n'a pas qu'une seule école. On a différentes écoles post-bac. Tous les élèves ne sont pas faits pour des prépas, que ce soit en métropole ou ici. Tous les élèves ne sont pas boursiers, donc ils n'ont pas forcément accès à certaines formations locales ou dans des établissements où il y a un partenariat avec Sciences Po. Par exemple, je pense à ça. Non, il faut les informer parce qu'on a l'impression que parce qu'il y a Internet, etc., qu'ils sont au courant des informations. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On est toujours dans la même dynamique. Moi, j'ai organisé pendant 15 ans les midis de l'orientation au lycée à Pérouse. On avait des élèves qui arrivaient et qui disaient « Ah, mais il y a ça ?» Ben oui. Regardez, maintenant, on a des profs principaux qui font de l'orientation. Il y en a certains qui étaient à la réunion, qui prenaient des notes pour diffuser les infos. Mais nous, on peut passer dans les établissements. On passe gratuitement, on ne nous paye pas. Mais au moins, on a cette possibilité d'informer nos jeunes. Et il faut que les jeunes calédoniens soient au courant, qu'on n'attende pas forcément les masters. Ils peuvent faire une licence ici ou des prépas. Là, on avait beaucoup de scientifiques. On a des scientifiques qui sont en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est les vacances scolaires. Donc, ils ne sont pas là ce midi. Ils sont sur l'eau ou en train de camper. Et c'est
ils
normal.
Ils profitent un peu.
Oui, c'est normal. Donc moi, je suis tellement ravie de pouvoir faire ça et je continuerai tout le temps. Mmh. Et puis, il faut leur faire prendre conscience de l'engagement. Ils peuvent revenir sur le territoire ou pas. Tout est ouvert.
Quel est l'intérêt de partir faire ces études à l'extérieur du territoire? C'est avant tout la qualité de la formation à l'extérieur ou c'est cette aventure aussi humaine de sortir de la Nouvelle-Calédonie?
Alors, en tant que professeur, quand on voit d'excellents élèves, d'excellents dossiers, on va leur dire, oui, vous pouvez candidater pour une prépa ici, mais vu les dossiers que vous avez, même en métropole, on va demander Henri IV, par exemple, pour une prépa. Et on ne va pas dire, non, mais pourquoi tu as choisi Henri IV, tu pourrais la faire ici. Non. Si c'est un excellent dossier, on part. Après, je parle des prépas. Après, je pense qu'il est très bien, c'est de se frotter au reste du monde, et notamment aux autres jeunes, parce qu'il y a un gap. Je pense que tous les jeunes ici, autour de la table, se sont rendus compte qu'il y avait quand même un écart entre la jeunesse qu'on vit en Nouvelle-Calédonie et puis la jeunesse en métropole. Je pense que c'est différent. Et donc ça procure encore une autre ouverture d'esprit, parce que je pense que les Iliens ont une ouverture d'esprit, parce qu'on va vers les autres. Mais en plus, en rencontrant d'autres personnes, ou alors en Espagne ou dans d'autres États, je trouve que c'est fantastique.
Qu'est-ce qui vous a le plus apporté au cours de vos études à l'extérieur du territoire? Je vois tout le monde qui se recule du micro d'un coup quand je pose une question. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Peut-être même une anecdote ou quelque chose. Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Personnellement, je pense que c'est, pour continuer, sous l'ouverture d'esprit. Alors, c'est positif comme négatif, mais en revenant ici plusieurs fois au cours de mes études, même maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même une différence entre ceux qui sont partis et ceux qui sont revenus, et je pense qu'on a quand même développé de nouvelles manières de voir les choses, et c'est très important, enfin pour moi c'est très important pour nous, pour les étudiants, pour la personne, mais pour la Calédonie aussi. Je pense que si on n'arrive pas à s'ouvrir un peu plus, à aller chercher d'autres possibilités internationales, d'autres manières de faire, on va juste stagner, donc ça serait un peu dommage, et c'est à nous aussi, à cette génération-là, aux générations futures, d'aller découvrir d'autres manières de voir et de faire les choses pour revenir ensuite ici et apporter notre pierre à l'édifice et développer la Calédonie au quotidien.
C'est vraiment cette ouverture d'esprit, tous autour de la table, c'est quelque chose que vous partagez?
Absolument. Et ce que j'aimerais souligner, que Mme Roamsim a précisé et qui est super important, c'est effectivement le fait de connaître toutes les options possibles, qu'effectivement on a des super prépas. En Calédonie, on a un super environnement de travail. Quand j'étais à l'université à l'époque, on avait une BU incroyable qui nous permet de réserver des salles, d'avoir des super infrastructures sportives, parce que ça aussi, ça a son importance. Plein de petites choses comme ça, et l'environnement parental n'est pas à négliger, parce que quand on est en prépa, on est sous une forme de pression très très forte. On a très peu de temps, on a très peu d'énergie. Et c'est vrai que c'est intéressant de connaître les options en Calédonie. C'est important de connaître aussi les options en France, parce que peut-être que, par exemple, je sais que kiné, on peut l'accéder via PACES ou via... Enfin, maintenant, c'est LAS. C'est une licence soit physique-chimie, soit sciences et vie de la Terre. Mais du coup, il y a aussi les options, effectivement, en France, qui seraient peut-être la STAPS pour la kiné. Et ça, c'est vraiment intéressant de connaître son profil, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, où est-ce que je suis douée, et du coup, quelle voie est la plus appropriée pour moi, et est-ce que j'ai la maturité après le bac, de vivre tout seul, parce que j'ai connu des étudiants outre-mer qui n'étaient pas forcément de Nouvelle-Calédonie, qui étaient par exemple de La Réunion, qui ont voulu faire des études de santé en France en pensant que c'était des meilleures qualités d'enseignement. Et en fait, finalement, ils se sont retrouvés face à un mur parce que je vis tout seul, il y a une pression intense, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de concurrence, et ça, ils ne sont pas préparés. Et avec le temps, en tout cas, ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils auraient mieux fait de rester dans l'université qui était la plus proche de chez eux sur leur île. Mmh. Donc, et effectivement, du coup, je rejoins mon collègue Antoine. Quand on part à l'étranger, ce qui met une claque, c'est cette maturité, parce que d'un coup, on coupe le cordon ombilical, on n'est plus avec papa et maman, et donc là, on a les responsabilités, on a la vie européenne ou autre, si on va sur notre continent. Et effectivement, ça permet énormément d'élargir les esprits, et surtout aussi de se rendre compte de la qualité de vie qu'on a en Nouvelle-Calédonie et de la chance qu'on a. Mmh.
Vous qui avez vu évoluer ces jeunes avec, vous le disiez, d'excellents dossiers au fur et à mesure des années, est-ce qu'ils sont prêts toujours à autant de sacrifices que les générations précédentes? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une envie supplémentaire d'aller vers ces parcours-là qui demandent peut-être de sacrifier une partie de sa vie d'adulte?
La Gen Z, vous voulez parler
sur... Non, mais je voulais parler globalement de l'évolution en règle générale, alors, mais pas forcément pour pointer du doigt une génération plus qu'une autre.
Alors, on peut quand même la pointer plus du doigt que les autres, mais en tout cas, je ne pense pas dans les études. Mmh. Je pense que quand ils sont dans les études, ils s'investissent à fond. Après, il y a toujours un équilibre. Je parle des prépas. Parce que après on s'aère un petit peu. Après, une fois qu'ils ont intégré une école, souvent, il faut pas oublier que c'est aussi la fête, les étudiants, c'est les associations, des choses comme ça. Mais ça, je pense que ça n'a pas changé. Ça va changer au moment où ils vont rentrer dans la vie active. Enfin, c'est ce que je ressens. Je pense que dans les études, il y a plus, ils se mettent un peu la pression quand certains veulent. Alors moi, je dirais qu'au niveau de pré-prépa, par exemple, pour les IEP communs où c'est un écrit, donc là, il faut s'enfermer, travailler. C'est vrai que il n'y a pas forcément beaucoup d'adeptes parce que ils réfléchissent en disant oui mais il faut que je m'enferme pendant quelques mois pour travailler. Mais sinon moi je pense que c'est plutôt postérieure étude. Je ne sais pas ce que qu'est-ce que vous avez ressenti vous aussi. Excusez-moi, je suis la journaliste en fait.
Mais très bien, allez-y, je vous laisse faire. Je reviens dans 10 minutes. Sur cette question-là aussi, parce que c'est un engagement, c'est un sacrifice quelque part de, à la fois de partir, même s'il y a, tout le positif qu'on voit et on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un sacrifice en termes de temps, en termes de, on se sépare de beaucoup de personnes.
Après, je pense que ça dépend un peu de chacun. Moi, j'ai pas trop eu de problème à partir, parce que j'étais content de découvrir une nouvelle vie, littéralement. Et puis la France, ça reste quand même plus ou moins... accessible, on change pas de culture à 100%, enfin, c'est la même langue, y a pas de souci. Je pense que si on part dans un pays qui est complètement différent, en Asie ou quoi, etc., là, ça va être un peu plus compliqué. Mm-hmm. Mais je pense que ça dépend de chacun, faut pas avoir peur non plus. Mais c'est vrai que s'il y a une partie de sacrifice, entre guillemets, à se dire, bon, je vais partir 3 ans, 5 ans, même plus, pour ceux qui font des études, surtout en médecine, je pense, parce que des fois, ça va un peu plus loin. Mais à la fin, quand on arrive à terminer ses études, à avoir même un peu d'expérience pro, si on peut, en supplément, on a une liberté qui est quand même assez incroyable. J'ai eu la chance de faire 2 ans d'alternance et de continuer dans cette entreprise-là à Bordeaux. Je me suis dit, purée, bon, c'est trop bien, j'ai mon master, j'ai 3 ans d'expérience professionnelle, j'ai 24 ans. Je suis revenu au Calédonie, je peux trouver du travail, je peux très bien repartir, etc. C'est... À des moments, on veut arrêter quand on est dans nos études, on veut changer de voie, ça arrive quasiment à tout le monde, c'est normal. On se pose des questions, on est encore jeune aussi, faut aussi y penser. On n'a pas notre avenir qui est tout tracé. Mais faut s'obstiner un petit peu et se dire, bon, je vais terminer au moins ça, je peux changer après si j'ai envie. Mais c'est une satisfaction à la fin de se dire, c'est bon, j'ai terminé, j'ai les portes qui sont ouvertes, je peux aller en ouvrir d'autres si je veux. Et on peut un peu faire ce qu'on veut de notre vie, quoi. C'est ça qui est génial.
Quand on a donné autant d'énergie, j'imagine, avec des prépas, avec des études, cette question du doute, ça doit être difficile, surtout quand on est à l'extérieur. Qui veut répondre ? Parce que je vois tout le monde qui réfléchit. Et vous avez visiblement des choses à dire.
Je peux rebondir, ouais. Oui, la question du doute, c'est une question qui est omniprésente, surtout quand on est dans une formation aussi exigeante qu'une prépa. Le doute, c'est un petit peu un compagnon de tous les instants, de se dire déjà... En particulier quand on est un Calédonien qui va en métropole, on a toujours un petit peu un syndrome de l'imposteur de se dire « mais qu'est-ce que je fais ?» Enfin, je parle pour moi, mais par exemple, quand j'arrive dans les grands murs immémoriaux de la Sorbonne et tout, là, on se dit « oh là là, qu'est-ce que je fais là ?» Alors qu'en fait, non, la prépa nous aide à fourbir nos armes et nous aide vraiment à être au niveau de n'importe qui d'autre. Et je rebondis aussi sur le terme utilisé de « sacrifice », qui, je trouve, la prépa est moins un sacrifice qu'un investissement, je pense. Parce que le fait d'aller en prépa, c'est la période de notre vie en tant qu'étudiant ou même en tant que général, enfin en général. Jamais on sera au même niveau que lorsqu'on a été en prépa. C'est une expérience personnelle qui est extrêmement enrichissante de pouvoir se pousser au maximum, d'arriver à aller le plus loin possible. Je pense notamment à la devise de l'Espagne, parce qu'on a une vétérinaire qui a fait ses études en Espagne. Je pense à plus ultra. Jamais on ne sera aussi bon que lorsqu'on a été en prépa. Des fois, je revois des productions que j'ai faites pendant cette époque-là, et je me dis « Ouh, c'est moi qui ai fait ça !» Et quand on se retourne pour voir le chemin parcouru, bien sûr, on se souvient un petit peu du sang, de la sueur et des larmes, pour être dramatique, mais on se souvient surtout de la qualité de la production qu'on a pu faire et de la qualité de la formation qu'on a gardée, et de toutes les compétences qu'on a engrangées, de tout le savoir qu'on a accumulé. Et je pense que parmi mes collègues de prépa, que ce soit dans ma formation au lycée La Pérouse ou dans les autres prépas, personne ne regrette d'avoir fait de prépa. C'est une formation qui pousse à l'excellence. Enfin, quoi qu'elle soit, une prépa pousse à l'excellence. Et c'est une satisfaction immense et je trouve assez incomparable de pouvoir se dire qu'on est allé au plus loin de ce qu'on pouvait faire.
Vous partagez cette analyse autour de la table ?
C'est... Alors oui, comme il dit, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est plus un investissement qu'un sacrifice.
Le sacrifice revêt un caractère sacré.
C'est vrai, mais en fait, ça, au final, c'est que 1 ou 2 ans de notre vie, peut-être 3 si on fait les 3,5 il me semble, ou 5,5 on appelle ça si je ne me trompe pas. Mais en fait, c'est effectivement hyper stimulant pour, je trouve, le cerveau et pour son développement personnel. Parce qu'effectivement, on est sous pression, on donne le maximum. Et le cerveau, la mémoire, c'est quelque chose en fait, qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille. Et il n'y a pas un moment plus adéquat que la prépa pour le travailler et pour l'améliorer, parce qu'il ne sera jamais autant stimulé. Et du coup, même si ça peut paraître, encore une fois, des sacrifices, en réalité, cette année, elle va apporter énormément à l'élève, parce qu'en fait, on n'apprend pas seulement des compétences, on apprend surtout à apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris, je trouve, trop tard. C'est apprendre à apprendre, comprendre que, effectivement, lire ou écouter, c'est juste passif, comprendre que peut-être que je peux avoir des moyens mnémotechniques, des quiz, des choses que je peux moi-même créer. Et ça, c'est hyper, hyper enrichissant.
Vous avez besoin d'être stimulé en permanence quand vous passez par ces parcours-là. Comment vous faites pour ne pas vous ennuyer après ?
Bonne question. c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, maintenant je pense que notre génération, on cherche un équilibre vie pro, vie perso, et même après, pendant nos études, après les formations d'excellence, on veut toujours faire certaines choses. Bon, il y a une période où je pense qu'on se repose aussi un peu mentalement. Ça dépend des périodes. Hein. Quand on est en hiver en France, c'est un peu plus compliqué de se reposer mentalement. Mais l'avantage des écoles en études supérieures, c'est qu'il y a toujours de l'activité. Les associations, on peut faire beaucoup de choses. Je prends mon exemple en école de commerce. Il y a des associations, alors oui, bureau des étudiants, bureau des sports, etc. Mais il y a aussi des associations comme les juniors entreprises qui sont des associations qui vont aller faire du conseil en entreprise. On a le choix. On a le choix de faire ce qu'on veut. Après, on peut aussi faire des choses en dehors de l'école. Et après, quand on commence à travailler, là, on commence un peu plus à penser au projet de vie, à des choses comme ça. Moi, c'est un peu mon cas actuellement. Donc, même si on est très stimulé pendant une certaine période, on arrive à trouver des moyens pour compenser. Après.
On le voit, c'est une méthode, c'est une rigueur. Quel conseil vous donneriez à un jeune Calédonien qui veut commencer une prépa, qui veut se lancer dans un parcours d'études supérieures à l'extérieur ?
Oh, Il y en a tellement. La rigueur, forcément, c'est le premier. Mais moi, il y a une phrase en anglais qui m'a poussée et qui m'a vraiment aidée, c'est « work smart, not hard ». Même si techniquement, ce serait plutôt les deux. Mais en réalité, c'est vraiment de 1, bien s'entourer. Choisir avec qui on va travailler, se créer un groupe de travail et bien choisir ces personnes-là, pouvoir effectivement se pousser vers le haut, parce qu'il y a aussi un proverbe qui dit on va plus loin à plusieurs, mais on va plus vite seul. Et surtout, ce qui nous a aidé, c'était vraiment effectivement ce travail d'équipe qu'on retrouve pas forcément d'ailleurs dans les PACES de France. En PACES en France, maintenant c'est en LAS encore une fois, mais à l'époque c'était extrêmement compétitif et les gens se tirent à balles réelles dans les amphithéâtres, quoi. Et nous, la PACES de Calédonie à l'époque avait les meilleures moyennes de toute la France, ce qui est assez surprenant parce que en fait on s'entraidait. On coopérait et finalement on avait d'excellentes moyennes. Donc oui, c'est exigeant. Avec mon binôme, on travaillait de 7h à 23h tous les jours pendant un an. Donc c'est exigeant. Par contre, il faut aussi se connaître, connaître son rythme. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire un an de prépa. J'ai des amis, ils venaient sans aucun stylo, ils se posaient à table, ils sont arrivés 7e au concours, ils ont eu médecine dès la première année. C'est injuste, c'est comme ça. Il y a des personnes, elles ont besoin de plus de temps. Et c'est normal. Et en fait, il faut apprendre à se connaître, se dire peut-être que effectivement j'ai besoin de 2-3 ans de prépa pour obtenir ce que je veux. L'important, encore une fois, c'est de connaître son objectif et son rythme, et aussi par exemple de le caler en fonction de son groupe. Moi par exemple, je suis une personne hyperactive, j'avais besoin de rajouter du sport dans mon quotidien, et j'ai pas mal d'amis qui effectivement ont supprimé par exemple leur vie sociale ou leur sommeil ou leur sport, qui sont en fait des besoins hyper importants. Et ça a pu effectivement perturber cet enseignement ou cette période de prépa qui était déjà assez compliquée comme ça.
D'autres conseils autour de la table ?
Pour ma part, je dirais comme conseil d'avoir un objectif qui peut changer en cours de route. Mais moi, par exemple, ce qui m'a donné envie de rentrer à Sciences Po, c'est que j'avais envie de travailler dans les relations internationales. Sciences Po, pour moi, c'était la meilleure voie pour faire ça. Maintenant, depuis que je suis à Sciences Po, donc depuis un an, j'ai découvert d'autres matières et je me rends compte que peut-être que d'autres choses peuvent m'intéresser, comme l'administration publique, typiquement. Mais c'est vraiment la nécessité d'avoir un objectif. Sans cet objectif, je ne suis pas sûr que j'aurais pu réussir ce concours. Il faut vraiment avoir un but précis, avoir l'envie de le faire.
Mmh. Et l'évolution en un an, alors ?
Bah, l'évolution en un an, elle est un peu due aux nouvelles matières que j'ai pu découvrir, notamment par exemple au droit, à la sociologie, aux sciences politiques, donc des matières qu'on ne fait pas forcément au lycée. Et donc ça ouvre vraiment l'esprit, on se rend compte de toutes les possibilités qu'on a. Et donc c'est ça qui est dur, c'est qu'au début on avait une idée très précise, et ensuite en arrivant dans cette école, on nous ouvre le champ des possibles, et en fait on se rend compte qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. Mmh. Et c'est ça qui est dur à choisir.
Il y a encore le temps.
Oui.
Il y a encore le temps. Autour de la table.
Moi, je dirais de ne pas avoir peur de partir et que ça va le faire dans tous les cas, qu'on est capable. Moi, si on m'avait dit à 17 ans que je partirais en Espagne pour, au final, être diplômée à 24 ans, j'y croyais pas du tout. Et quand j'ai reçu mon diplôme, j'étais hyper fière et je ne pensais pas avoir fait autant en 6 ans. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de partir, qu'on est bien accompagné, que les parents seront là et on rencontre plein de monde. Mmh.
De toute façon, voilà, les rencontres font les choses. L'entourage, c'est aussi quelque chose qui est ressorti au cours de cette émission. Ça a l'air d'être important. Des conseils, peut-être, vous qui êtes en fin de cursus ou...
Oui, peut-être un conseil général, quelle que soit la prépa qu'on fait, serait de connaître sa valeur. Parce que quoi qu'il arrive, une prépa, ça enseigne le fait de tomber, mais surtout de se relever après d'être tombé. Donc, il faut toujours faire preuve de résilience, c'est ce que nous apprend la prépa, et il faut arriver à se relever après l'échec. Il y a énormément d'étudiants dans ma promo qui, au début, s'essuyaient des notes des 2 sur 20, des 3 sur 20, et à répétition. Et qu'au final, on finit l'année en ayant 14, 15 des fois. Personne n'est à l'abri du succès, et tant qu'on faut jouer le jeu, arriver à se prendre le choc initial de l'échec, et arriver à se relever après pour finalement sortir grandi de cette expérience. Et ne pas, au contraire, rester à terre.
Oui, pour revenir un peu sur l'entourage, c'est vrai que c'est assez important, si on a la chance d'avoir le soutien de sa famille ou d'amis, etc., dans les moments difficiles, je parle de quand, alors que ce soit en prépa, bon, ça n'a pas été mon cas, ou en études, après, quand on n'est plus en Calédonie, ça peut vite être difficile à certains moments. Il y a des solutions, on va essayer de ne pas avoir peur d'aller voir d'autres personnes. L'objectif des études aussi, c'est d'acquérir des compétences, pardon, mais aussi rencontrer d'autres personnes, voir autre chose, et ça aide beaucoup. Si je prends mon exemple, je pense que j'ai rencontré plus de Calédoniens à Bordeaux que je pensais qu'il y allait en avoir, c'était assez impressionnant. Mais après, je rencontrais aussi des personnes forcément de métropole dans ma classe, etc. Et on voyait les différences et ça forge beaucoup le caractère, la manière de voir les choses. Et aussi, ça aide. Mmh. Ça aide parce qu'on se dit, chacun a ses études, chacun a ses manières de tenir, entre guillemets, quand ça va pas. Et après, on essaie d'avancer comme on peut, mais... Ça se passe bien dans 99% des cas, il n'y a pas de souci. C'est largement faisable de partir, de faire des études, de réussir, et puis après pouvoir revenir si c'est ce que les personnes souhaitent. Et puis avoir la vie qu'on souhaite par la suite. Mmh.
On voit des jeunes épanouis autour de ce plateau. En tout cas, Françoise Oramsim, si vous deviez vous donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer.
Allez-y, et il n'y aura plus le sentiment du syndrome de l'imposteur.
C'est pas normal ça que ça revienne encore.
Ouais. Ah mais c'est terrible, c'est terrible. Terrible, terrible. Et je pense encore, désolé, mais c'est encore aussi les filles plus que les garçons, et notamment dans les carrières scientifiques.
Ça existe encore.
Oui.
Comment le combattre ?
Alors, on peut faire de la discrimination positive. Il y a des écoles qui essayent de le tenter. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais je pense que l'éducation nationale a bien fait de maintenir les maths, par exemple, jusqu'au bout et donner envie. Il faut passer par d'autres étudiants qui ont fait ma carrière scientifique, mais il faut que voilà, tous les profs, et là j'en connais beaucoup en maths, qui soutiennent tout le monde, que ce soit les filles ou les garçons, et il faut y aller, il faut donner envie. Parce que je pense qu'on est en train de rebasculer de l'école de commerce, du commerce, vers de nouveau les ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs partout. Et c'est ce qui va devenir important. D'où les pertes un petit peu d'école de commerce là, en place pour la rentrée à venir.
On a parlé un peu en filigrane de Pré-Prépa-NC. Vous accompagnez ces jeunes justement qui veulent se lancer. Si des gens sont intéressés, qui nous écoutent, comment ça se passe?
Alors nous, on a des contacts. On a un contact mail, c'est contact à préprépa.nc, numéro de téléphone 78 22 72. On a tous les supports, les réseaux sociaux. Mais je dirais aussi, on a aussi. Moi, je suis prête à aller dans les établissements scolaires pour expliquer un peu ce que c'est. Et après, les jeunes, ce que je leur apprends, l'engagement. Et d'ailleurs, on va s'orienter plus avec Pré-Prépa maintenant sur comme monter un parcours de l'engagement pour que les élèves s'engagent encore un peu plus, qu'ils aient conscience que quand on fait quelque chose, on y va peut-être au moins jusqu'au bout, mais en fait, on essaye de l'appréhender, l'engagement, la prise de parole. Il y en a plusieurs autour de la table là, qui ont fait l'éloquence, parce que l'éloquence, ça permet le questionnement, la culture générale, et de le commencer dès la seconde. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Mmh. Et puis après, au fur et à mesure, on peut parler des études plus scientifiques. Moi, j'accompagne, c'est vrai qu'ils se rendent plus sur les Sciences Po, les écoles de commerce, mais je fais passer des oraux de LAS aussi, de personnalité, des oraux, des entretiens pour des entraînements. Mais déjà, je pense qu'avoir conscience de ce qu'on fait, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas avoir peur de dire, ok, ben non, mais ça, ce n'est pas fait pour moi. Non, il faut essayer. Il faut essayer.
Il faut se lancer. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce midi pour nous parler de votre parcours et surtout de votre état d'esprit. Merci. L'émission sera évidemment disponible en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc. Il est midi passé de 32 minutes. La suite sur Radio Rythme Bleu, c'est le Café Gourmand. Et à 13h, ce sera le rappel des titres.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.